Alors bonjour à tous, chers camarades, chers amis. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à cette 10e fête de lutte ouvrière à Saint-Denis. Voilà, donc c'est déjà 10 ans qu'on fait cette fête. Alors, ceux qui appartiennent au monde de la bourgeoisie, à celui des affairistes et des possédants, ceux-là ont toutes les raisons d'être satisfaits du président élu en 2017. Pour eux, rien n'a été assez beau. Les coffres de l'État leur ont été ouverts. Les mêmes ministres qui répètent à longueur de journée qu'il faut économiser l'argent public n'ont eu aucune hésitation pour décider des baisses d'impôts en faveur du patronat des plus riches. Réforme de l'impôt sur la fortune, plafonnement de l'impôt sur les revenus du capital, baisse de l'impôt sur les sociétés, etc. À elle seule, la suppression de l'ISF représentera un cadeau de plus de 3 milliards aux millionnaires de ce pays. Pour financer leur cadeau en faveur de la minorité de ces bourgeois, Macron et ses ministres n'ont pas hésité à baisser les APL, supprimer 150 000 emplois aidés, augmenter la CSG et d'autres choses encore. Le gouvernement rogne sur toutes les dépenses de l'État, en particulier celles qui sont consacrées aux besoins les plus essentiels des classes populaires. Président des riches, Macron l'est jusqu'au bout des ongles, par sa politique, par l'arrogance et le mépris de classe qu'il affiche à l'égard des travailleurs. Aux ouvriers menacés de perdre leur emploi, aux intérimaires contraints de vivre dans l'insécurité permanente, à tous ceux qui, dans les entreprises, subissent les horaires à rallonge, les cadences les plus insoutenables, Macron répète qu'il n'est pas le Père Noël et qu'il ne leur fera pas de cadeaux. Au moins, c'est clair. Les travailleurs savent à quoi s'en tenir. Macron est un ennemi déclaré et il continuera à s'attaquer aux travailleurs, à leurs droits, à leurs conditions de travail, à leurs conditions de vie. Il continuera parce que c'est la politique qu'exige la bourgeoisie de tous ceux qui arrivent à la tête de l'État depuis des décennies. Tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont imposé les uns après les autres de nouveaux reculs, repoussant l'âge de la retraite, diminuant la protection sociale. Les ordonnances Macron contre le Code du travail ont été précédées par la loi El Khomri du président Hollande. Ces partis traditionnels de gouvernement de droite et gauche se sont discrédités et l'ancien banquier Macron a pris le relais pour satisfaire la soif de profit des financiers et du grand patronat. Et dans la période où on est, une période en pleine crise économique, les profits faramineux de la classe capitaliste sont le produit de l'aggravation de l'exploitation. Dans les usines, le patronat se livre à une guerre contre les travailleurs, contre leurs droits, contre leurs conditions de travail, pour réduire le nombre de congés, pour réduire les pauses, augmenter le temps de travail, etc. Tant que le rapport de force lui sera favorable, le patronat continuera la guerre qu'il mène aux travailleurs pour leur reprendre les quelques droits qu'il avait été obligé de leur concéder dans le passé. Les attaques qui se poursuivront jusqu'à ce que les travailleurs soient capables de relever la tête et de rendre des coups. Nous en avons la force, nous en avons la force, car sans nous, rien n'est possible dans cette société. Cette force, il faut l'utiliser, et ce n'est possible que si nous luttons tous ensemble, intérimaires, embauchés, salariés du public, du privé, chômeurs, retraités. Pour changer le rapport de force avec la bourgeoisie et ses serviteurs politiques, il nous faudra mener des mobilisations déterminées, semblables à celles que les travailleurs ont été capables de mener il y a 50 ans, en mai 68, ou encore avant, en juin 36. Alors bien sûr, on sait aujourd'hui que bien les travailleurs ne croient pas que de telles luttes soient possibles ou qu'elles puissent être victorieuses. Il est fréquent d'entendre autour de nous, dans les entreprises où nous travaillons, qu'il serait trop tard, que les patrons seraient trop forts, que les travailleurs seraient trop divisés. Tous ceux qui n'ont pas baissé les bras et ont conservé la volonté de s'opposer aux menées patronales se heurtent au fatalisme de leurs camarades de travail. Le chômage pèse sur le moral et la combativité des travailleurs. À cela se rajoute le poids des déceptions engendrées par la politique des grands partis de gauche et le leur reniement. À leurs origines, le Parti socialiste d'abord, puis le Parti communiste ensuite, avaient pour raison d'être de représenter les intérêts politiques des exploités. Ils avaient la perspective du renversement de la bourgeoisie et du capitalisme, l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils étaient opposés à l'impérialisme, à ses guerres, à ses colonies. Liés à la classe ouvrière et à ses luttes, ils cherchaient à peser sur la vie politique pour imposer au gouvernement bourgeois et au patronat des mesures favorables aux travailleurs. À ces époques, lors des élections, les travailleurs les plus conscients exprimaient leur intérêt de classe en votant pour le parti ouvrier dans lequel ils se reconnaissaient. Mais aujourd'hui, ces partis ne représentent plus depuis longtemps les intérêts des exploités. Ils se sont intégrés dans la société bourgeoise. Ils ont eu des ministres, se sont transformés en responsables syndicaux politiques, des fois syndicaux aussi, mais responsables politiques respectueux des lois capitalistes. Ils ont trahi les intérêts des travailleurs et fait la politique que le grand patronat leur demandait contre le monde ouvrier. Et s'ils ont conservé pendant des dizaines d'années une partie de leur électorat ouvrier, c'est en trompant ceux qui leur faisaient confiance et parce que la droite au pouvoir était vomie et cette comédie de l'alternance gauche-droite, les travailleurs en ont fait le tour. Et ils l'ont montré qu'ils n'en voulaient plus, en particulier en s'abstenant massivement dans les élections. Et en plus de dégoûter les travailleurs, ces partis leur ont fait perdre leur repère de classe. Ils se sont fait les propagandistes, au sein même du mouvement ouvrier, des idées et des valeurs de la bourgeoisie. En remplaçant le drapeau rouge par le drapeau bleu-blanc-rouge, l'international par la Marseille, ils ont préparé le terrain à une Marine Le Pen. L'écœurement vis-à-vis des partis de gauche traditionnels de l'électoralisme ont fait le reste pour que ces travailleurs en viennent à la conclusion, elle, au moins, on ne l'a pas essayé. Comme s'il n'y avait pas d'autre perspective pour les travailleurs que de s'en remettre aux politiciens bourgeois les plus réactionnaires. L'indifférence politique et le repli sur soi, ou pire, le soutien à des politiciens du monde bourgeois comme Le Pen, sont des impasses. Tout ce que le Front National sait faire, c'est de répandre dans la classe ouvrière le poison de la division et du racisme, de dédouaner les exploiteurs de leur responsabilité du chômage et des bas salaires. La seule façon de combattre la guerre entre les pauvres prônée par l'extrême droite est de lui opposer la conscience de classe des travailleurs. La conscience d'appartenir à une classe dont les intérêts sont fondamentalement les mêmes par-delà les origines et les nationalités. Il faut lui opposer la perspective d'une lutte collective des travailleurs pour défendre ses intérêts matériels et politiques face à leurs exploiteurs. Cette perspective peut sembler lointaine aujourd'hui, mais la classe ouvrière relèvera la tête et retrouvera sa combativité. Car il y a trop de décalage entre la pauvreté croissante et le honteux étalage des richesses de la classe exploiteuse. La bourgeoisie elle-même, avec son avidité qui la pousse à dépouiller toujours plus la classe ouvrière, finira par provoquer la réaction du monde du travail. La classe ouvrière a connu de nombreuses périodes de recul dans le passé et elle a toujours retrouvé le chemin des luttes. À chaque fois, de nouvelles générations de militants, d'ouvriers, prenaient la relève, s'engageaient dans le combat contre l'exploitation capitaliste. Mais il est essentiel que ces femmes et ces hommes ne se mettent pas à suivre des marchands d'illusions qui ne manquent jamais aussi de surgir. Des politiciens qui, comme Mélenchon aujourd'hui, cherchent à redonner vie aux illusions électoralistes entretenues par le PS et le PC quand ils avaient de l'influence. Il est essentiel que, même minoritaire, un courant révolutionnaire continue de défendre la perspective de la prise du pouvoir par la classe ouvrière et de la nécessité de créer un parti révolutionnaire se fixant cet objectif. Tous les travailleurs savent que de tout temps, les patrons mènent la guerre pour peser sur les salaires, pour augmenter le rythme de travail, pour faire produire plus avec moins de monde. Cette lutte entre le patronat et les salariés qu'ils exploitent est une loi du fonctionnement du système capitaliste. Dès le début, le mouvement ouvrier s'est développé dans le combat contre la classe capitaliste. Son histoire est faite d'avancées fragiles, souvent remises en cause, et de reculs fréquents. Car la classe capitaliste a pour elle l'argent, le pouvoir, sa mainmise sur l'économie et le soutien de l'État. L'objectif du mouvement ouvrier, au temps où il était digne de ce nom, n'était pas de combattre seulement pour obtenir quelques améliorations des conditions d'existence des travailleurs, mais tout autant de contester la bourgeoisie à la direction de la société. Ces deux combats ont toujours été étroitement liés. C'est en contestant radicalement l'ordre capitaliste qu'il est possible de défendre efficacement l'emploi, les salaires, les droits des travailleurs. Et c'est dans ces périodes où les travailleurs ont mené des luttes les plus déterminées pour défendre leurs conditions d'existence, qu'ils ont été amenés, en fait, à contester le pouvoir de la bourgeoisie. C'est pourquoi un parti défendant véritablement les intérêts politiques et matériels des travailleurs ne peut être que communiste et révolutionnaire. Un parti communiste et révolutionnaire ne pourra se développer qu'au travers de luttes, des grèves, des affrontements avec la bourgeoisie et son appareil d'État. Il ne pourra surgir que si des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs reprennent confiance en eux, en leur classe sociale, afin que le combat commencé dès le début du capitalisme soit enfin mené jusqu'au bout. Bien sûr, tant que se poursuit l'actuelle évolution réactionnaire de la vie politique, le courant communiste révolutionnaire restera minoritaire, mais c'est ce qui en rend son rôle d'autant plus important. Des femmes et des hommes qui ne soient pas résignés à l'exploitation, aux inégalités et à la barbarie du capitalisme, qui ne perdent pas le moral, même lorsque les temps ne sont pas à la révolte collective, peuvent jouer un rôle important et contribuer à la construction du parti nécessaire pour changer la société. Chacun peut jouer ce rôle, aujourd'hui et sans attendre de grandes luttes, pour faire progresser l'idée autour de lui que la tâche de transformer la société dépend de la classe ouvrière et qu'elle en est capable. Car la domination de la bourgeoisie ne repose pas seulement sur la force. Elle cherche aussi à convaincre les travailleurs qu'ils ont besoin d'élites, de patrons, de chefs d'État. C'est ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est ce que nous répètent les médias, tous ceux dont le métier est de formater l'opinion publique. Les travailleurs auraient besoin de patrons parce que ceux-ci leur donneraient du travail. Voilà le mensonge grossier dont on nous persuadait. Mais c'est l'inverse. Les Peugeot, les Dassault, les Bolloré ne seraient rien sans les travailleurs qui produisent les richesses. Ce sont les travailleurs qui produisent les voitures sur les chaînes de l'automobile, qui font rouler train, qui construisent tous les immeubles, qui font fonctionner l'ensemble de la société. La bourgeoisie, elle, est une classe parasite qui vit aux dépens de la société et se contente d'empocher les profits. Et pour organiser la production, ils doivent avoir recours à toute une hiérarchie, depuis le PDG jusqu'au chef d'atelier, qu'ils payent grassement pour certains. Alors pour faire progresser la conscience de classe des travailleurs, il est nécessaire que partout, des hommes et des femmes s'opposent quotidiennement à la propagande de la bourgeoisie et affirment que ceux qui sont indispensables, ce sont les travailleurs et que ceux-ci ont les moyens d'organiser la société bien mieux qu'elle ne l'est actuellement sous l'égide des capitalistes. Même dans une période de recul, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, les travailleurs se battent. Et cela peut prendre la forme d'une réaction individuelle face à son chef ou d'un débrayage ou d'une grève. Quel que soit le résultat, toutes ces résistances, individuelles ou collectives, à l'exploitation, peuvent contribuer à renforcer le camp des travailleurs et à préparer leur lutte collective à venir. À condition qu'il y ait des femmes et des hommes pour affirmer que toutes ces luttes s'intègrent dans un seul et même combat, celui de tous les travailleurs contre les capitalistes. Faire vivre ces idées dans les entreprises, dans les quartiers populaires, est une tâche à laquelle chacun peut apporter sa pierre. C'est une tâche à laquelle chacun peut contribuer, suivant ses possibilités, car c'est sans doute la plus belle chose à laquelle on peut s'atteler aujourd'hui. Car n'en doutons pas, tôt ou tard, les opprimés se lèveront et ils trouveront dans ces idées la possibilité de mettre tous les moyens de production au service de l'humanité tout entière et de faire en sorte que les immenses possibilités matérielles, techniques, scientifiques soient un jour la base d'une société libre, fraternelle, assurant un avenir de paix et de progrès matériel pour tous.
Voilà, donc avant de passer à l'apéritif et que les parades vont mettre les tables, je vais vous inviter à chanter la chanson des travailleurs l'internationale. Voilà.